L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Notre partenaire du jour, c'est Bretagne Vivante, qui nous emmène en forêt. Parce que mars, c'est le mois des forêts. Vous savez que sur Radio Évasion, on aime les forêts. On leur consacre régulièrement des émissions. Vous pouvez réécouter la dernière en date qui était consacrée à un sujet un peu particulier, l'agroforesterie. On avait aussi évoqué il y a plus longtemps le programme Braise Forêt Bois. On a reçu plusieurs fois notre maire du Fou, Marc Pasqualini, quand il était forestier pour l'Office national des forêts. Bon, le domaine ne nous est donc pas totalement étranger. Aujourd'hui, c'est le point de vue des naturalistes que nous recueillons donc, en particulier Bretagne Vivante, représentée aujourd'hui par l'un de ses vice-présidents, Alain Thomas. Bonjour.
Bonjour.
La forêt. Ce n'est pas le premier habitat auquel on pense quand on pense à la Bretagne. On se dit qu'il n'y a pas beaucoup de forêts en Bretagne. Quelle est la proportion cependant de forêts en Bretagne et puis quel type de forêt surtout ?
Alors, on imagine... La proportion, 15% du territoire régional.
Quand même.
Oui, quand même, sachant que si on se rapporte à la France, là, c'est 30%. Donc déjà, on voit qu'on est... Peu garni en espace forestier. Et plus on se rapproche des pointes occidentales, plus ce pourcentage diminue. Et le Finistère est l'un des départements français les moins richement dotés en espaces boisés. Et quand on fait le total de ces espaces boisés, de ces forêts,
On va revenir sur la définition, bien sûr.
C'est 400 000 hectares en Bretagne. Si on ramène 100 km², ça en fait 4 000. Et alors, pour essayer de visualiser ces 4 000 hectares, eh bien, on imagine grosso modo un rectangle de 70 km sur 60 km.
Ça serait un département, non ? Pas tout à fait.
Moins qu'un département, mais presque. Et donc, on peut s'imaginer traverser cet espace donc pendant 60 km ou pendant 70 km et se retrouver dans une ambiance peut-être landaise, mais en tout cas de vaste espace forestier. Donc, pour conclure, oui, la forêt, chez nous, ce n'est pas vraiment ce qui saute aux yeux.
Et encore, dans le Finistère, ici, à cet endroit-là, l'Aulne-Maritime, et puis enfin, le centre du Finistère, on est pas mal doté finalement, entre Huelgoat, le Cranou.
Exactement, c'est une des caractéristiques du territoire du parc naturel régional d'Armorique.
En fait, ouais, c'est peut-être grâce à ces forêts qu'il a été classifié comme ça aussi, non ?
Oui, grâce à ça, et grâce au relief et à la présence de vastes zones de landes. Et déjà à l'époque, d'un conflit naissant entre le futur de ces landes et l'arrivée de certaines formes de valorisation forestière.
C'est vrai, on en a parlé parce qu'on a fait il n'y a pas plus tard que 2 jours une émission sur les landes et tourbières qui vont bénéficier d'un programme européen. Et en fait, en effet, on va faire reculer la forêt pour refaire venir la lande. Mais nous, on n'est pas du genre à entretenir les conflits sur Radio Évasion. On donne la parole à tout le monde.
Alors, faire reculer la forêt ou certaines formes de boisement.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
De quelle forêt allons-nous parler ?
Voilà, parce qu'en fait, on découvre dans le numéro de Pénarbède de Bretagne Vivante, donc, qui est une revue presque scientifique, mais bon, vulgarisatrice, et là, entièrement consacrée à la forêt, que finalement, les forêts, il y en a plein de types. Enfin, la forêt, peut-être à laquelle on pense spontanément, c'est la forêt ancienne. Mais qu'est-ce que c'est déjà une forêt ancienne ?
Alors, une forêt ancienne, c'est une forêt qui n'a pas subi de défrichement depuis au moins 2 à 3 siècles.
Ah oui. C'est pas une forêt primaire déjà.
Alors, ce n'est a priori pas une forêt primaire. Il faut déjà se rappeler que pour pouvoir qualifier une forêt ancienne, les spécialistes de la question, dont Loïs Morel, contributeur important pour ce numéro de Pénarbède, explique que ces personnes-là se basent sur les cartographies les plus anciennes disponibles, en particulier les cartes de Cassini. Ça nous renvoie à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, on peut comme ça vérifier que certaines forêts de Bretagne, et pour essayer dans le Finistère, celle du Cranou, par exemple, de l'Andévennec, n'ont pas été déjà parfaitement cartographiées et n'ont pas subi depuis lors d'opérations de défrichement.
Aucune, enfin si, un petit peu peut-être quand même, quelques alors, coupes de ci, de là.
Oui, alors, enfin, une coupe n'est pas...
C'est pas un défrichement, c'est vrai.
N'est pas ni un défrichement, ni une déforestation.
Elles n'ont pas été mises en culture, en fait, par exemple, ou construites, c'est ça, en fait.
Exactement. Mm. Donc, voilà, c'est ça qui qualifie ces forêts anciennes et qui sont assez peu nombreuses par rapport aux couverts forestiers dans le Finistère, dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan. Encore une fois, on va dire la moitié ouest, la moitié... En Basse-Bretagne, en Bretagne occidentale, c'est à peine 20% des forêts.
Et sinon, dans l'Est, on pense évidemment à la forêt de Brocéliande, qui est peut-être une forêt, enfin de Pimpon, pardon, qui est une forêt ancienne sans doute, enfin relativement.
Oui, tout à fait. Mmh. Oui, exactement. Elle figure parmi les plus importantes du massif armoricain, celle de Gavre, de Lanoué, etc.
Alors ça, c'est la forêt, donc on va dire le sens la plus classique. Mais en fait, c'est intéressant d'élargir la notion de forêt. Qu'est-ce que ça peut être aussi une forêt, à part une forêt ancienne?
Alors, qu'est-ce que c'est une forêt? J'ai ouvert ce matin mon Larousse. Définition de la forêt. Alors peut-être que le Larousse que l'on peut se procurer en 2021 propose une définition un peu différente. Vaste étendue de terrain planté d'arbres.
Ouais, donc finalement c'est large.
C'est très large. Et il y a un mot qui interpelle. Planté.
Oui, c'est cultiver une
définition
forêt.
Définition de planter, enfoncer un végétal. Et donc, d'entrée de jeu, on voit bien qu'on se trouve toujours dans une sorte d'ambiguïté. De quelle forêt parlons-nous? D'une forêt naturelle, spontanée, vivant sa vie depuis quelques siècles, voire quelques millénaires, depuis éventuellement la fin de la dernière ère glaciaire. Hein, imaginons-nous partir vers les grandes forêts tropicales d'Amérique du Sud ou d'Asie, ou... Parlons-nous de forêts dans lesquelles notre espèce intervient en permanence, en renouvelant des boisements, en plantant. Pour rester sur le champ lexical, on peut mettre en parallèle et sans jugement de valeur le forestier, le sylviculteur.
Oui, parce que ça pose un problème, cette idée de plantation. La sylviculture, parfois, c'est la régénérescence naturelle, c'est-à-dire qu'on laisse les glands par terre et on attend de voir ce qui pousse, en fait. Voilà, donc on ne plante rien.
Et en tout cas, entre ces deux extrémités, il y a évidemment beaucoup de nuances et j'allais dire d'actions intermédiaires. Mais on voit quand même bien que forestier-sylviculteur renvoie à des représentations différentes des espaces boisés.
Donc le sylviculteur, c'est celui qui va planter et le forestier, c'est celui qui va laisser pousser, naturellement, non, c'est l'inverse?
Non, pas forcément. C'est-à-dire, alors après, il faut élargir la réflexion en faisant un parallèle avec l'agriculture ou le jardinage. Est-ce qu'on est, s'il y a un objectif effectivement de production, parce que nous, humains, nous avons besoin de bois sous des formes diverses, sommes-nous plutôt dans une approche de polyculture ou sommes-nous davantage dans une approche de monoculture, comme on a pu le voir dans un secteur proche d'ici, et en particulier, par exemple, dans les Monts d'Arrée, ou comme à l'image de ce qui a pu être stimulé dans les années 60, 70, 80, au travers de quelque chose qui s'appelait le Fonds forestier national, où, considérant qu'il fallait produire rapidement du bois, on avait une tendance à planter de façon monospécifique en faisant appel à une seule espèce ou deux ou trois espèces à croissance rapide.
Des résineux, donc, ouais, de préférence.
Par exemple. Et donc, dans un système, dans un écosystème extrêmement simplifié, très éloigné de celui que l'on va trouver, par exemple, dans une forêt dont on vient de parler, une forêt ancienne. Voilà, d'un côté, on a l'impression que dans cette forêt simplifiée, il n'y a que des arbres, souvent une ou deux espèces d'arbres.
Un tapis d'aiguilles de pin aussi. Ouais.
Alors que dans l'autre, on a effectivement, avec ces arbres, une communauté, un système plus ou moins élaboré, etc. Et encore une fois, entre ces deux extrémités, il y a des stades intermédiaires.
Et est-ce qu'il faut une surface minimale pour faire forêt ? Alors là, c'est parce que ça peut nous amener à un des sujets traités dans le Penarben Magazine sur la forêt bocagère. Enfin, est-ce qu'il faut quand même une grande parcelle pour faire une forêt ?
Comment faire forêt ? Oui, c'est ça. Comment faire forêt ? Bien, déjà, comme le présente M. Lyotagui dans le Penarben, et ce que l'on rappelle quasiment systématiquement encore aujourd'hui quand il s'agit de conserver des talus boisés, c'est que fondamentalement, ces linéaires de forêts linéaires sont des corridors. Ce sont des corridors, des corridors permettant à un certain nombre d'espèces de gagner éventuellement, de passer d'un espace forestier à un autre, tout en restant, si je puis dire, à couvert. Voilà. Donc oui, ça peut faire forêt, tout à fait.
Parce qu'en fait, c'est ça, il faut qu'il y ait des espèces, une diversité d'espèces animales et végétales, ouais. En gros, pour faire forêt, si on veut.
Oui, exactement. Oui, oui. Une forêt n'est pas que la simple addition d'arbres. Et ce qu'il est important de voir, ça a été rappelé hier ou avant-hier dans Le Monde par cette sommité scientifique qui s'appelle Francis Allais, un des experts en matière de forêt, notamment de forêt tropicale, connue à travers le monde, c'est que la forêt dont nous exploitons une certaine surface, dont on extrait un certain nombre de matériaux destinés aujourd'hui de plus en plus à fournir de l'énergie, il faut bien se rendre compte que, à la différence des ressources fossiles que l'on va chercher dans le sous-sol, du charbon, du pétrole, là, on est à la surface de la planète et cette ressource forestière est en même temps un système qui intervient dans la biosphère d'une façon globale, qui intervient dans le cycle de l'oxygène, dans le cycle du carbone atmosphérique.
Ça capte le carbone.
Voilà, et qui en plus est le support, le cadre de vie d'une biodiversité extrêmement importante, qui par ailleurs... Chaque espèce joue un rôle très particulier. Donc, il faudrait sans doute que l'on soit de plus en plus attentif à la façon dont on exploite cette ressource. Et on peut même, alors quitte à être provocant, on peut même se demander si aujourd'hui, il est tout à fait normal de continuer à penser que tout propriétaire d'arbres, d'une certaine façon, reste... la seule personne capable de décider ou non du maintien ou pas de ces végétaux qui contribuent par leur présence à des fonctions extrêmement, extrêmement diverses.
Ouais. Ça régule le climat notamment. Voilà. Quelles autres fonctions ?
Les fonctions essentielles par rapport au cycle de l'eau, par rapport à la production de l'oxygène, à la captation, du carbone atmosphérique, etc. Ce sont des biens communs.
C'est ça. Voilà, et abri pour certains animaux, y compris des micro-organismes.
Oui, rappelons-nous quand même que si on ajoute en plus l'oxygène produit par le phytoplancton...
Plancton végétal.
Oui, Une inspiration sur deux nous est rendue possible grâce à la végétation. C'est incroyable. Et à la végétation terrestre.
Et ouais. Notamment la forêt. Pas seulement, voilà. Mais notamment. Voilà. Donc les arbres nous rendent... C'est vrai que ça pourrait être considéré comme un bien commun. Et pourtant, il y a plein de statuts. Bon, on ne va pas parler des statuts de la forêt en France, parce que sinon, ça nous ferait une émission de 3 heures, peut-être. Mais pour revenir à la forêt bocagère, au bocage, il y avait un chiffre que j'aimerais bien que vous donniez sur le bocage breton qui a disparu.
Bien sûr. Oui, alors Pierre Lyotagui propose dans son article une évaluation de la surface forestière qui, finalement, a disparu de Bretagne au fur et à mesure des opérations de remembrement dans la seconde moitié du XXe siècle. L'estimation de Talu Boisé tourne autour de 220 000 kilomètres. Il faut imaginer, hein, et déjà ce linéaire. On pourrait faire.
Mais c'est plusieurs fois le tour de la Terre.
J'allais le dire.
Je suis en train d'essayer de calculer. Mais bon.
Aussi, voilà. Bon, on va donc pas donner le chiffre, mais tout le monde est invité à le calculer. Il a intégré ensuite la surface au sol ramenée au sol de ces arbres, en tenant compte de la largeur de leur houppier, etc.
Des arbres, mais pas des talus, hein, des arbres.
Oui, arbres, débordant évidemment D'accord. de part et d'autre avec leurs branches. Et il est donc arrivé à l'équivalent de 97 000 hectares. On ramène ça à 970 km². Eh bien, ça représente 4 fois la forêt de Fontainebleau.
Qui a disparu à cause du remembrement agricole. Voilà. Donc en combien d'années, en gros?
Dont on s'est défaussé en l'espace de 30 ou 35 ans en Bretagne. Voilà. Et on rappellera d'ailleurs incidemment que malgré les efforts du plan
Braise-Bocage,
voilà, en dépit donc de l'implication de plus en plus d'acteurs privés, de collectivités publiques, etc., le linéaire de talus boisés continue malgré tout à diminuer.
Et Braise Forêt-Bois, est-ce que Bretagne Vivante a un avis sur ce plan?
Alors déjà, on va rendre hommage à nos collègues du GMB, du groupe mammalogique breton, qui ont été finalement les représentants des associations de protection de la nature au sein de ce comité qui a abouti à ce plan régional. Et on doit quand même considérer que le bilan est, de notre point de vue, assez négatif. Encore une fois, dans la prise en compte de la biodiversité. La biodiversité en général, et y compris la biodiversité, j'allais dire arborée, la biodiversité forestière. La forêt en France est conduite depuis longtemps avec la philosophie de la multifonctionnalité des forêts. La partie productive, la partie ludique, la partie cynégétique, l'utilisation pour la chasse, etc. Et évidemment aussi donc les réservoirs de biodiversité. Et on a toujours l'impression que nous n'arrivons pas à atteindre cet équilibre parfait.
C'est une bonne chose. Vous considérez que c'est une bonne chose qu'il y ait cette multifonctionnalité?
Oui, bien entendu, parce que encore une fois, il nous semble difficile pour notre espèce de ne pas tirer profit de la forêt au travers de l'exploitation de la matière ligneuse.
Du bois, bien sûr. Ouais.
Du bois.
Ou de l'exploitation touristique, puisque c'est un lieu de promenade.
Et après, évidemment, avec toutes ces dimensions-là. Mais on considère que l'aspect réservoir de biodiversité est insuffisamment pris en compte. Et c'est lié notamment au fait, on en revient encore une fois au mode d'exploitation d'un certain nombre de boisements, on ne laisse pas suffisamment de forêt vieillir. Plus la forêt vieillit, plus on a des zones de vieillissement, voire de sénescence, plus on s'aperçoit qu'on a là une diversité biologique qui augmente en permanence. Grâce à ces îlots de vieillissement.
Donc laisser des vieux troncs, par exemple, qui sont tombés tout seuls.
Exactement. Enfin, il faut quand même bien se rendre compte qu'à l'échelle de la planète, la diversité biologique la plus remarquable se trouve où?
Elle se trouve
dans les forêts, enfin pour les parties émergées de la planète. Elle se trouve dans les forêts et dans quelles forêts? Essentiellement dans les forêts tropicales où à 99% Homo sapiens, notre espèce, n'a strictement rien fait. Voilà. C'est là aussi, il faut développer beaucoup d'efforts de pédagogie, d'explication pour encore une fois faire reculer cette représentation simpliste de la forêt qui est la suivante. Il faut absolument que nous, humains, soyons là. Oui, puisque notre représentation acquise parfois dès les premiers cours d'histoire à l'école primaire, Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, c'est cette vision extraordinaire de la forêt jardinée avec de la futaie, avec une magnifique futaie, traduisant d'ailleurs le savoir-faire d'un certain nombre de forestiers ou des forestiers en général, mais ce n'est que de la forêt jardinée,
avec
partout.
Des troncs bien droits, voilà. Tout ça destiné à faire des belles poutres pour fabriquer des châteaux, voilà. Sans doute.
Nous ne sommes pas, le Homo sapiens n'est pas une espèce absolument nécessaire au fonctionnement harmonieux des forêts en général.
Et alors donnez-nous une idée de cette, c'est une question un peu difficile, mais de cette biodiversité justement, qu'est-ce que ça peut être par exemple?
Déjà si on reste au niveau des associations végétales et des essences d'arbres, les botanistes, aujourd'hui les phytosociologues, les sociologues des associations végétales, c'est beau, les phytosociologues qui travaillent depuis les années 50 pour essayer de caractériser par exemple les forêts bretonnes, sont arrivés aujourd'hui à considérer que l'on a 16, au minimum, on a en ce moment 16 types de forêts naturelles en Bretagne. Et récemment, on a encore pu décrire, là aussi, j'invite tout le monde à se procurer le numéro 241-242 de Pénarbède.
Qui va bientôt sortir. Donc, il est sorti.
C'est dans quelques semaines. D'accord. Il est déjà parti à l'imprimerie. Et on a découvert récemment, sur des surfaces extrêmement étroites, en bordure du littoral, des ormets littorales. Alors, ce n'est pas l'adverbe désormais.
Désormais, non, c'est les ormes.
Ce sont les ormes.
Les fameux ormes. En plus, qui sont assez menacés, oui. Les ormes. C'est une bonne nouvelle, alors.
Mais là, on a des ormes qui continuent à croître sur des zones de falaises littorales, principalement, donc, quelques petits réduits costa-armoricains. Et c'est est associé à un certain nombre d'autres espèces végétales. Et ça a donc été décrit comme l'une de ces associations forestières caractéristiques de la Bretagne. À vol d'oiseau, ici, à 15 km ou 20 fois 15 km à vol d'oiseau. Et pour faire référence au travail de l'Office national des forêts, donc gérant les forêts publiques, il faudra dire un mot. Il faudra dire éventuellement un mot sur la caractéristique de la forêt bretonne. Elle est essentiellement à près de 90%, elle est constituée de propriétés privées.
Oui.
Voilà, c'est une grande caractéristique aussi régionale. Donc très près d'ici, il y a une réserve biologique intégrale. C'est une petite partie de la forêt de Landévennec qui s'appelle le bois du Loc. Eh bien,
on ne touche pas à cette forêt.
Exactement. Mm-hmm. Elle fait l'objet d'inventaires naturalistes très très poussés et conduits et organisés par l'Office national des forêts. Eh bien, quand on va voir ce site, on peut le découvrir via le GR34 qui traverse cette zone. Et là, on découvre une forêt étonnante, j'allais dire, pour beaucoup de gens. Et même la première fois qu'on y va, je me rappelle de mes 16 ou 17 ans quand je suis arrivé là en mobylette, parce que pendant l'hiver, il y avait un hivernage de canards dans l'anse du Poulmic. Et en découvrant ces arbres, j'ai trouvé ça décevant. Parce que déjà, à l'époque, j'avais l'idée de ces forêts absolument extraordinaires avec des fûts de 20 mètres de long.
Bon, là, vrai qu'ils sont petits, un peu rabougris, on va dire.
Mais c'est simplement l'expression des contraintes que subissent ces arbres et de leur capacité, en même temps, extraordinaire à pouvoir pousser sur des sols aussi pauvres, en recevant sur le nez, sur le feuillage, l'air marin en permanence, etc., etc. Et du coup, ce petit espace nous rappelle, donc c'est une chaînée étrée hyper-atlantique, parce qu'elle a quasiment...
Elle a quasiment
les pieds dans l'eau. Et elle nous rappelle au passage que quelques siècles en arrière, nous avions en Bretagne, sur le littoral, quasiment systématiquement des forêts qui venaient jusqu'au bord du littoral. On a vraiment, alors ce sera sans doute là, on l'espère, une contribution du dernier numéro donc de notre revue Pénarbet, que d'aider un certain nombre de personnes à modifier, à moduler leur représentation sur la forêt, les forêts, etc.
Eh bien, on l'espère et on espère aussi que cette émission y contribuera. Merci beaucoup Alain Thomas de nous avoir promenés en forêt. On retrouvera Bretagne vivante au mois de mai. Puis en attendant, vous pouvez bien sûr réécouter cet entretien sur le site internet de Radio Évasion.